Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC After Europe. Le podcast. Nicolas Villas.
Hola viva, ravi de vous retrouver pour ce podcast After Galaxy. Cette semaine, on part à la découverte de l'un des plus beaux derbys du monde, dans l'un des plus beaux pays du monde. Rien que ça, ça donne envie, non? Et ben aujourd'hui, on part en Italie, on part à...
Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna. E abbiamo il sole in piazza, la rivolta, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra.
Ah, da-da-da-da. Bruno Lauzi, interprète de Genova per noi. Vendredi, le Genoa reçoit la Sampdoria pour le compte de la 17e journée de Serie A pour nous faire vivre ce si beau derby, notre très beau Johan Crochet. Salut Johan.
Bonjour à toutes et à tous.
Qu'est-ce que je suis sympa avec toi.
Effectivement, t'es beaucoup trop sympa.
Ouais, je vais te demander de l'oseille bientôt, fais gaffe. Il anime le compte Twitter du Genoa France, @GenoaFrance. Marco est avec nous, merci. Salut Marco.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous, Marco. Et dans le virage d'en face, il y a le compte...
Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.
Ah bah non, merci à toi mon gars. Dans le virage d'en face, il y a le compte @Sampdoria_FR emmené par Jonathan. Salut Jonathan.
Bonjour à tous et Forza Samp.
Il annonce déjà la couleur. Elles sont belles en plus, les couleurs de la Samp. Tiens, bah, Jonathan, pourquoi es-tu supporter de la Sampdoria? Tiens, commençons par ça.
Alors moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis d'origine italienne et pas de n'importe où, de Gênes. Et ma famille a beaucoup de goût. J'aime l'élégance, j'aime la beauté, donc naturellement, je suis allé vers la Samp. Non, voilà, non, c'est par origine, par passion du maillot aussi, comme beaucoup. Et puis parce que j'ai eu la chance de grandir dans une époque où la Samp était pas si mal aussi, il faut le reconnaître. Alors, je suis pas de l'époque Viali, Mancini, je suis plus de l'époque Cassano, Pazzini, tout ça. Mais c'était une belle époque et ça reviendra.
Ouais, on va y revenir hein, sur la belle époque, notamment des 90s avec Viali et avec Mancini. Marco, même question pour toi. Comment es-tu devenu supporter du Genoa?
Alors, moi, je n'ai pas d'origine italienne et je n'ai pas connu les heures de gloire du Genoa puisqu'elles ont commencé en 1893. Ça commence un petit peu à remonter. Donc, par passion du foot, par passion des tifosi, de ce qui peut se passer dans les gradins et plus particulièrement depuis la saison 2007-2008. Année Gianpiero Gasperini, Marco Borriello, Marco Rossi, tous les grands noms de ce club. Une saison moyenne, mais voilà, c'est comme ça qu'est parti l'amour entre moi et ce club.
Bah c'est joli, c'est une belle histoire. Le derby de Gênes, alias le derby de la Lanterna. Tiens, Johan, pourquoi ce surnom d'ailleurs?
Eh ben, c'est lié, comme assez souvent en Italie, vous connaissez le derby della Madonnina avec la Madone qui trône sur le Duomo de Milan. Eh bien là, c'est aussi un symbole historique de la ville de Gênes. C'est la fameuse Lanterna, qui est tout simplement le phare historique à l'entrée du port de Gênes. Et comme tous les phares, ça facilite la navigation sur mer. Et donc, c'est un monument très particulier, reconnaissable à la ville de Gênes, qui est construit sur un rocher, qui a été bâti sur un rocher. Donc voilà, ça vient de là.
Et on va se plonger dans l'ambiance de ce derby de la Lanterna.
Yeah.
on vous a mis un son de chaque virage, bien entendu, pas de jaloux. Et encore, vous n'avez pas les tifos en audio. D'ailleurs, Johan, souvent, ce derby de Gênes est décrit comme le plus beau d'Italie. Alors, est-ce que c'est le cas et pourquoi, d'ailleurs ?
Alors, le plus beau, c'est toujours les codes esthétiques qui sont un peu propres à chacun. Mais effectivement, il y a cette... Il y a déjà ces couleurs, en fait. Dans tous les derbies, ce qui est très intéressant, souvent, c'est l'opposition visuelle. Et donc, l'opposition visuelle de couleurs. Vous avez derby de Rome, derby de Turin, derby de Milan, où il y a des vraies oppositions de couleurs. Là, ce qui est un peu marrant avec le Gênes et la Samp, c'est que finalement, bah, dans les blasons des deux clubs, vous retrouvez des éléments de la ville de Gênes et des couleurs un petit peu identiques. Mais ce rouge et ce bleu, qui sont des couleurs très importantes des deux côtés, sont vraiment attirent l'œil, en fait. Donc tout de suite, quand on est dans un stade en plus à l'anglaise, puisque le stade de Luigi Ferrari, c'est vraiment un des... Moi, je trouve que c'est un des plus beaux stades, les plus atypiques, les plus esthétiques, où on en a marre un peu tous ces stades un peu modernes qui se ressemblent tous. Là, on a vraiment un stade avec une vraie identité. Donc, quand vous ajoutez des tribunes qui sont plutôt bien éclairées, ce qui n'est pas le cas dans tous les stades, et avec des superbes tifos, avec des couleurs comme ça qui tapent à l'œil, et bah forcément, vous avez l'un des plus beaux derby, notamment parce que vous avez aussi les deux gradinates et les deux virages qui sont hyper puissants vocalement. On a mis des extraits, mais vraiment, chaque derby est l'occasion de pousser les décibels au maximum. Et honnêtement, ce derby de Gênes, et Jonathan et Marco vont être d'accord avec moi, depuis des années, c'est vraiment ce qui entoure le match qui est le plus intéressant, parce que ce qu'on voit sur le terrain des deux équipes, c'est pas forcément ultra kiffant sur les dernières années. C'est vraiment l'animation en tribune et la semaine qui précède dans la ville de Gênes, les drapeaux évidemment qui sont au balcon de dans les quartiers populaires, etc., les scooters avec les drapeaux qui se rendent au stade. Voilà, c'est un grand classique en Italie, mais c'est vraiment un superbe derby. Ouais.
Alors Marco, pourquoi c'est le plus beau d'Italie pour toi, ce derby, toi, supporter du Genoa?
C'est le plus beau car c'est le derby le plus ancien d'Italie, puisque le Genoa, on rappelle que c'est le premier club fondé en Italie. Et c'est, comme l'a dit Johan, c'est tout ce qui entoure ce derby, tout le folklore, entre guillemets, qu'on connaît des semaines avant, les banderoles sur les maisons, aux fenêtres, les cafés qui prennent leur couleur... d'un ou de l'autre club, et c'est de la haine entre les supporters. Les gens ne se parlent plus, les gens qui supportent un club et l'autre ne se parlent plus des semaines avant le derby. Et pour paraphraser un ancien entraîneur du Genoa qui est resté anonyme d'ailleurs, à Gênes, le derby compte, perdre le derby c'est comme braquer une banque et réaliser que vous avez remporté une valise remplie de chiffons. Et je pense que cette phrase, elle résume tellement bien ce gagner ou perdre le derby de la lanterne.
Jonathan, t'es d'accord avec ça, avec toute cette colorité finalement dont parle également Johan?
Ouais, après je reviendrai un peu sur le mot haine malgré tout. C'est une animosité, mais c'est pas la même que par exemple pour le derby de Rome. Ça dépasse un peu ça, parce que finalement dans les familles, il va y avoir des gens qui vont être pour la Samp, d'autres qui vont partir avec les autres du Genoa. Et c'est pas tant la haine, c'est plus une animosité, et c'est surtout chercher à avoir l'hégémonie sur la ville. Et peut-être ce qui le rend encore plus romantique que les autres, c'est que depuis des années, aucun des deux clubs joue vraiment les premiers rôles. Et donc c'est uniquement pour être, on va dire, pendant 6 mois, le chef de la ville, celui qui a gagné.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis d'ailleurs, Jonathan, puisque Marcello Lippi a déclaré il y a quelques années « J'ai eu la chance de vivre de grands derbys, mais aucun n'a le parfum de la lanterne. Il est moins venimeux que les autres. C'est peut-être ce qui le rend plus beau. » Alors, ça veut dire que finalement, Johan, c'est quoi? C'est la teneur de cette rivalité, elle est quoi? Elle est avant tout géographique? Il n'y a pas vraiment de rivalité sociale, finalement, dans
non,
ce derby?
Non, c'est géographique parce que ça porte le nom de derby. C'est un vrai derby, c'est-à-dire deux clubs d'une même ville. Mais effectivement, comme... À l'inverse, plutôt d'autres derbys en Italie, il n'y a pas d'opposition sociale ou religieuse, par exemple, qu'on peut voir en dehors de l'Italie, dans la fondation des deux clubs ou même dans la filiation des supporters. Donc, il faut savoir, en fait, pour comprendre ce derby de Gênes, je pense qu'on aurait peut-être même dû commencer par ça, il faut comprendre Gênes. Et Gênes, c'est une très grande tradition ouvrière. C'est une ville qui a un port qui a longtemps été le port le plus important ou l'un des plus importants de la Méditerranée. Donc c'est vraiment une ville qui est, voilà, on le dit assez facilement comme ça, mais qui a longtemps été marquée à gauche, notamment dans son expression politique. C'est une ville très ouvrière, donc on n'a pas de... On, le derby ne puise pas ses racines dans une opposition autre que simplement deux clubs d'une même ville.
Et alors Jonathan, alors c'est vrai que tu le disais, il n'y a pas de réelle animosité, il n'y a pas de violence, on va dire, entre les deux clubs, entre le Genoa et la Samp. Cela dit, parfois il y a des, scènes de provoque, hein, notamment lors de la fameuse saison où la Samp est reléguée, les fans du Genoa ont mis en scène un enterrement finalement dans les rues de la ville.
C'est vrai. C'est vrai, mais on va demander à Marco, depuis cet enterrement, combien ils ont gagné de derby. Et donc, vu qu'il répond
vraiment
pas, je vais
pas
dire,
beaucoup,
la réponse
pour
c'est zéro.
À ce que vous... Non, c'est vrai qu'on joue autant la Samp que le Genoa, hein. On joue plus les premiers rôles, on a des propriétaires qui étaient catastrophiques, on est devenus des clubs, voilà, des clubs vraiment très moyens de Serie A, et... Finalement, le derby, c'est ce qui nous maintient en vie toute l'année. On sait qu'on a ces deux matchs-là où on doit exister, où on doit prendre l'hégémonie sur la ville. Et il ne nous reste plus que ça parce que sportivement, c'est vraiment compliqué des deux côtés. Mais ouais, l'animosité, elle existe pendant le match. Mais c'est vraiment du bon gros chambrage comme l'année, comme vous l'avez dit, hein, l'année de la descente de la Samp, avec le derby gagné. Et les deux matchs qui ont suivi, la Sampdoria prend 0 point et descend. Et l'enterrement dans les rues de la ville, vous pouvez voir quelques vidéos sur YouTube, ça vaut vraiment le détour.
Tiens, puisqu'on en est aux couleurs et à l'histoire également, Marco, raconte-nous la jeunesse de ton Genoa, qui est un historique hein, du football italien.
Bah, le Genoa, c'est tout simplement le doyen de la Serie A. De la Serie A, pardon. Il a été fondé en 1893 par des Anglais qui sont venus s'installer à Gênes, ville portuaire. Et le nom, en fait, Genoa Cricket and Athletic Club, il tient aussi grâce à la Croix de Saint-Georges, qui est le protecteur de la ville et qui figure sur les armoires de celle-ci. Donc ça renvoie à ses origines anglaises. Faut savoir que le Genoa, donc en plus d'être le club le plus ancien d'Italie, c'est aussi le premier vainqueur du championnat italien en 1898. Et c'est l'équipe qui a gagné les 6 premiers titres nationaux sur les 7 premières années. Alors, c'est... Voilà, en gros, la genèse que...
Ouais, vas-y Marco, vas-y.
Non, vas-y, c'est bon.
Non, j'allais dire, alors c'est vrai que le nom du Genoa, Jonathan, il est très anglophone, anglophile. Le nom de la Sampdoria, lui, il est beaucoup plus original. Hein. C'est un club qui est plus jeune, hein, la Samp. Hein.
Ouais, c'est... Alors, le club en lui-même est jeune. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est 46, pardon. Et en gros, c'est la Sampdoria, c'est la contraction entre la Sampier d'Arena, qui est un quartier et qui était un club de Gênes, qui lui est un club aussi assez ancien. Je crois qu'il datait du 19e siècle, donc fin du 19e. Et de l'Andrea Doria FC. Andrea Doria, c'était le roi de Gênes. Il y avait un club de foot qui s'appelait ainsi. Et on a l'habitude souvent de railler un petit peu les supporters du Genoa, justement en leur rappelant leurs racines anglaises. Et ce qui se dit beaucoup à Gênes, c'est que justement, la Sampdoria est un mot inventé. La Sampdoria, il y a quelque chose de fantaisiste et de sympathique. Et on dit souvent que la Sampdoria est un sentiment plus qu'un club de foot. C'est quelque chose, c'est une appartenance. Et j'ai toujours trouvé ça très beau.
Ouais, même le maillot d'ailleurs. Les couleurs sont très marquantes. Hein. Le maillot de la Samp, il est vraiment connu également à travers le monde. Hein.
Ben, d'ailleurs, on a souvent des gens qui commencent à nous suivre sur Twitter en disant la première chose, plus beau maillot du monde. Et d'ailleurs, il est écrit depuis plusieurs années derrière notre maillot, la più bella maglia di calcio, donc le plus beau maillot de football.
Et ben, on va se plonger dans l'histoire sportive de ces deux clubs de Gênes.
È brillante il debutto dell'Oriundo in rosso-blu. Su azione a destra Fritti può districarsi dai difensori e centrare. La testa di Sirotto da De Pietro che Vitacco mette in rete e due. All'inizio della ripresa Tortur è messo a terra in area e l'arbitro concede il rigore. Lo stesso Tortur realizza la punizione accorciando le distanze.
Le premier derby entre les Genoa et la Sampdoria s'est joué le 3 novembre 1946, victoire 3-0 de la Samp. Alors cela dit, mine de rien, Johan, le Genoa, c'est un club qui pèse hein, niveau palmarès dans l'histoire du foot italien.
Oui, c'est un club qui pèse, mais effectivement, ça remonte à très longtemps, malheureusement. On peut comparer ça à des clubs français pour donner un peu une idée à nos clubs, à nos auditeurs et auditrices qui connaissent pas un petit peu forcément ça. Mais imaginez un peu le Stade de Reims. Voilà, Stade de Reims, ils ont gagné il y a très très longtemps. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un club entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Quand ça va bien, ils sont en Ligue 1. Quand ça va moins bien, ils sont en Ligue 2. Le Genoa, c'est un peu pareil. même si on y reviendra tout à l'heure, il y a eu des vrais problèmes de gestion qui font que, honnêtement, il y a un potentiel qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, la même chose est valable pour la Sampdoria, ce qui fait qu'il y a une vraie déception de les voir aujourd'hui tout en bas du classement. Mais le Genoa, c'est un club historique, comme l'est le Torino, par exemple, aussi, qui est lui aussi un des premiers clubs professionnels qui sont encore aujourd'hui professionnels en Italie. Donc, c'est un club qui pèse, mais si tu veux, c'est un peu lointain aujourd'hui. Effectivement, on est toujours fiers de notre histoire et en Italie, on est toujours attaché à l'histoire, au vintage, etc. Mais malgré tout, pour les jeunes générations, c'est plus un club qui pèse autant que ça, parce que ça fait bien trop longtemps qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Et la même chose est valable d'ailleurs pour la Samp, même si la Samp, ça remonte à aller, on va dire, à 30 ans.
Alors justement, Marco, pour rebondir sur ce que dit Johan, alors c'est vrai que quand on regarde de façon très objective, le Genoa est le quatrième club qui a remporté le plus de championnats d'Italie, alors même si c'était d'autres formats, hein, à l'époque. Mais c'est vrai que les titres commencent à dater. Le dernier titre majeur, c'est une Coupe d'Italie en 1937. Est-ce que ces titres, ils parlent quand même à la génération actuelle, ou alors vous vous dites, bah, c'est quand même un peu vieux, c'est un peu poussiéreux tout ça?
Bah, je rebondis sur ce qu'a dit Johan. En fait, on est partagé entre deux sentiments. Alors, le premier, c'est oui, ça date. Ça fait une éternité qu'on n'a pas gagné quelque chose. Et ça fait aussi une éternité qu'on n'a pas été bien placé au championnat pour se dire, bah, voilà, cette année, on va peut-être réussir à faire quelque chose ici ou là. C'est plus le cas depuis trop longtemps. Mais d'un autre côté, on est le club le plus ancien d'Italie. Et on a un palmarès qui est important. Alors, certes, qui est ancien. Mais le palmarès, c'est ce qui permet aussi de... Et l'histoire, c'est ce qui permet aussi de construire l'avenir du club. Alors oui, ça ne va pas parler aux générations actuelles, car on n'est pas dans un club qui dépense des millions dans les transferts, qui avec des noms clinquants et qui va gagner tous les titres qui passent. Mais on reste attaché à tout ce palmarès et à toute cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, on existe encore, même si on a eu un petit peu chaud pendant les années Prezzosi. Mais voilà, on est fiers, on est partagé entre ces deux sentiments. La fierté par rapport à tout ce qui a pu être, à ce qui a été accompli, pardon, dans l'histoire du club. Mais aujourd'hui, voilà, on périclite et on essaie de survivre tant bien que mal.
Tu veux balancer une vanne là-dessus ou pas, Jonathan?
Bien sûr.
Je le sens chaud, Jonathan.
mais je suis quand même, je respecte le côté amoureux du passé. Comme ça, on peut choisir son passé. Non, j'aime bien en plus, c'est vrai. Mais il faut quand même se rendre compte, là je le dis aux auditeurs, le dernier titre du Genoa, le café en poudre et le stylo bic n'existaient pas.
quel chambre, celui-là.
Non mais effectivement, et je le reconnais, effectivement, c'est beau d'aimer la souffrance et d'aimer, c'est pas du tout une vanne, et d'aimer et de rester derrière ces couleurs-là. Et nous, on a eu un présent, allez, il y a 20 ans, qui n'était pas trop trop mal. Effectivement, nous aussi, on a été dans le dur. Et je pense qu'on y reviendra après.
Vous l'êtes encore avec Ferrero.
On va y revenir, les gars. Bougez pas. Bon. Spoilez pas et tout, on va y revenir. Tiens, ben justement, tu parlais de cette... c'était il y a même 30 ans, même maintenant quasiment. Niveau palmarès, la Samp, elle a attendu les années 90 pour briller.
Quarto del secondo tempo scaduto, è finita! E la Sampdoria! E la Sampdoria conquista la Coppa delle Coppe regalando un prestigioso trofeo all'Italia ed entrando nell'albo d'oro di questa competizione. Vedete il tabellone elettronico con le congratulazioni ai vincitori della Coppa Europea, la Coppa delle Coppe che Pellegrini, il capitano, alza ora. Per la grande gioia dei suoi compagni e dei sostenitori.
La Samp vainqueur de la Coupe des Coupes 90 face à Anderlecht 2-0 après prolongation grâce à un doublé de Viali. Alors c'est vrai que Johan, hein, les années 80-90 sont clairement la période dorée de la Samp. Hein.
Ouais, et puis en plus, c'est à un moment où l'Italie était ultra compétitive, donc ça rajoute encore plus de mérite pour cette équipe-là, parce qu'il faut quand même se rendre compte que dans les années 80, il y a la Juve qui a gagné un titre de champion, il y a la Roma qui a gagné un titre de champion, il y a l'Hellas Vérone qui a gagné un titre de champion, il y a le Napoli qui a gagné un titre de champion, il y a le Milan, il y a aussi l'Inter et il y a la Sampdoria en 91. Donc on a beaucoup de clubs différents qui gagnent des titres avec l'arrivée de pas mal de joueurs étrangers qui permettent aussi d'élever le niveau. Je rappelle qu'il y a eu des joueurs comme Zico, comme Falcao, beaucoup de Brésiliens d'ailleurs également, Platini, des Français, etc. Donc c'est vraiment une décennie qui est très très compétitive et effectivement, la Samp va réussir à gagner une C2, va réussir à gagner un Scudetto et va presque gagné, malheureusement, va être finaliste de la... De la C1 en 92 face au Barça. D'ailleurs, il y a deux finales de Coupe d'Europe qui sont perdues par la Sampdoria. Et à chaque fois, c'est contre le Barça de Cruyff. Bon, après, c'était une référence aussi de l'époque. Mais effectivement, ces années-là, 89, 90, 91, 92, c'est la Samp de Boskov sur le banc essentiellement. C'est avec des Roberto Mancini, des Gianluca Vialli, des Pagliuca dans les buts. Le fameux Attilio Lombardo et ses cheveux qui n'ont pas duré très longtemps.
Il a la même coupe que toi, c'est un bel hommage que tu lui as rendu, Johan.
Exactement. Avec Virchow aussi en défense, qui était un super, super défenseur. Donc, on a fêté les 30 ans du Scudetto 91 cette année. Il y a eu une petite fête organisée. Il y a un bouquin qui est sorti aussi parce que cette épopée-là de la Samp a plu à beaucoup de monde. Parce que c'est toujours pareil, on a un rapport aux belles histoires quand même dans le football. Et effectivement, la Samp n'était pas forcément programmée pour gagner ça, mais comme l'Hellas Vérone n'était pas programmée en 84 pour gagner le Scudetto non plus. Donc voilà, ça a laissé des traces très importantes, et encore plus aujourd'hui, on s'en souvient avec plus de... Je ne sais pas si c'est de passion ou de... Mais parce qu'en fait, on a reconstitué aussi le duo Vialli-Mancini dans la sélection nationale. Et donc, ça a redonné un espèce de petit coup de fouet. Allez, replongeons-nous dans la Samp des années 90.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un 6 finales de Coupe d'Italie, donc 4 victoires. Il y a une super coupe également d'Italie. C'est vrai que Jonathan, tu le disais, ce n'est pas forcément la période que toi, tu as connue véritablement et pleinement. Mais c'est les années Vialli et Mancini. Mancini qui est quand même la légende de la Samp, hein.
Mais justement, je pense que le titre italien de cet été vient de ce titre de la Samp, c'est-à-dire des outsiders qui commencent à croire en eux, qui vont au bout. Je crois que c'était l'Inter qui était en rivalité avec nous tout le long de ce Scudetto. Et je pense que le titre européen de cette année a été construit autour de ça. Et d'ailleurs, dans le staff de la Squadra, il y avait Mancini, il y avait Vialli,
Lombardo.
Evani, Lombardo. Et c'est, je pense, sur ça qu'ils se sont centrés. Voilà. Donc finalement, c'était une belle chose pour le foot italien déjà il y a 30 ans.
Marco, comment les tifosi du Genoa vivent ce palmarès européen de leur rival? Parce que c'est vrai que vous avez une histoire, c'est vrai, vous avez des titres, c'est vrai, beaucoup d'ailleurs, même s'ils datent, c'est vrai, mais vous n'avez pas de Coupe d'Europe, cela dit, du côté du Genoa.
Mais dans les années 90, on n'avait pas la télévision au Genoa, donc on n'est vraiment pas au courant de tout ce qui s'est passé durant cette décennie-là. On était concentrés en série B, etc.
Bon, il y a un complexe visiblement alors, Marco.
Un club. Mais ouais. Ah non, du tout. Non, plus sérieusement, chaque club a eu sa période dorée, entre guillemets. Nous, à la naissance, on a amené le football et on a fait construire l'histoire du football en Italie. La Samp a eu une période intéressante dans les années 90. Ça s'est vite arrêté. Hein. Faut aussi un peu en rire, mais voilà, ils ont eu des belles années. De là à avoir un complexe, non. On reste fidèle à nos couleurs, et avoir un complexe par rapport à eux, non, pas du tout. Ça reste des soudjini, hein, comme on dit en Italie.
Et vendredi donc, le Genoa reçoit la Sampdoria, le Genoa qui n'a plus gagné à Luigi Ferraris depuis 9 matchs face à la Samp. Depuis le 8 mai 2011, il y avait un partout jusqu'à la 90e minute, jusqu'à...
Boselli trattenuto, Boselli si gira, sinistra di Boselli, Boselli, il Genoa in vantaggio, incredibile, 92esimo, Boselli incredibile,
non sembrava che il Genoa avesse la forza di poter essere pericolosa, invece Boselli bravissimo nel tenere prima a distanza l'avversario, poi spostarsi la palla sul sinistro, dall'interno dell'area di rigore, un tiro a giro che ha sorpreso Da Costa.
E il gol di Boselli è stato l'ultimo atto di questa partita.
L'Argentin Mauro Boselli qui est dans le rôle du héros. Alors c'est vrai, quand on regarde l'histoire récente des deux clubs, aucun des deux n'a disputé de Coupe d'Europe sur les 5 dernières saisons. On va s'intéresser au projet de ces deux clubs qui sont plutôt mal barrés d'ailleurs au cours de cet exercice. Il y a pas mal à dire sur les deux, Johan. On va commencer par le Genoa, propriété d'investisseurs américains. Alors qui sont-ils? Quel est leur projet?
Tu sais, Nico, ça m'a fait sourire parce que tu as dit ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe. Le problème, c'est que ça fait longtemps, surtout qu'ils jouent pour se maintenir.
Et ça, enfin, c'est t'as dit, la Samp n'a pas joué la Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça. 2016-2017,
oui,
ils font un Q3, quoi. Allez, un troisième tour de qualif.
Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça compte vraiment? Je ne suis pas certain. Mais non, c'est... Comme je disais tout à l'heure, il y a un potentiel qui est dingue dans cette ville. C'est une ville de foot, c'est... comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais des couleurs, des tifos, il y a un public de passionnés, c'est vraiment dommage. Donc pour revenir au Genoa, on a eu un règne très long, 18 ans, de Enrico Preziosi, qui est un entrepreneur qui a fondé les fameux Giochi Preziosi, les jouets. C'est quelqu'un qui a fait des affaires dans les jouets. Et ils ont été rachetés par un fonds d'investissement américain, 777 Partners, je le dis façon radiophonique plus simple, pour une somme estimée à 150 millions d'euros, déficit compris, ça c'est très important quand on parle de montant de rachat. C'est un fonds d'investissement qui est basé à Miami, qui a aussi une participation minoritaire dans le FC Séville. Et il y a un administrateur délégué qui a parlé il n'y a pas très longtemps à un média économique italien de la stratégie du club. Et en gros, leur idée, c'est un peu facile à dire comme ça, on verra la mise en place, mais surtout ne pas se reposer que sur les droits télé et sur le trading de joueurs, notamment développer l'activité du stade, etc., etc. Ils en ont parlé d'ailleurs au maire de Gênes dès leur arrivée. Et pourquoi je dis c'est un peu facile comme ça? Parce que, évidemment, le trading, ça va être important pour réussir à monter en gamme aussi au niveau du budget. Le problème, c'est qu'il y a trading et trading. Le trading fait par Preziosi, qui a fait du Genoa une véritable place de marché, c'était absolument n'importe quoi, avec beaucoup trop de joueurs sous contrat, avec des joueurs qui étaient envoyés à droite et à gauche, qui ne s'inscrivaient surtout pas dans la durée. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Vraiment, Preziosi a amené des choses au Genoa, c'est évident. Mais ça fait des années qu'il freine son club, clairement, qu'il l'a mis en très grand danger, en terminant plusieurs fois à un point ou deux points de la relégation. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot parce qu'il faut structurer le club. C'est plus le foot des familles, Preziosi, Sensi, Berlusconi, Moratti, etc. Preziosi fonctionnait encore un peu comme ça. Là, il faut vraiment structurer le club. Les dirigeants du fonds d'investissement ont dit « Nous, on va essayer de mettre en place une vraie structure, une vraie organisation avec des personnes de qualité, des vrais managers, des vrais directeurs commerciaux, des vrais... des personnes avec un vrai pédigré pour essayer tout simplement de donner un bel élan au Genoa. Et le problème, c'est que l'élan économique et sportif, il va quand même beaucoup passer par le terrain. Et ce qu'on voit pour l'instant du Genoa depuis qu'ils sont arrivés, alors on va prendre depuis le début de la saison parce que ce sera un peu trop facile de parler que depuis l'arrivée du fonds d'investissement américain, mais c'est très compliqué. Le Genoa est actuellement 18e.
Ouais.
Et là, il se passe pas grand chose, voire rien.
Ouais.
Alors ils ont amené Shevchenko dans leur valise là, ils l'ont nommé entraîneur. Sa seule expérience c'était sélectionneur de l'Ukraine, alors c'est déjà quelque chose.
Surtout qu'il a eu des bons résultats avec l'Ukraine, mais c'est pas le même boulot.
Ouais. Mais c'est pas tout à fait le même travail. Et puis on a vu que là sur les 4 premiers matchs de Shevchenko, alors évidemment le calendrier était compliqué avec Roma, Milan, Juve et l'Udinese, mais pour vous la faire très simple, c'est 1 point sur 12, c'est 6 tirs cadrés en 4 matchs, et 0 tir contre la Juve, donc c'est vraiment compliqué.
Ouais, Marco, Johan vient de le dire, le Genoa est 18e de Serie A, est-ce que tu es inquiet toi face à ce projet, est-ce que tu étais rassuré quand tu as vu Shevchenko arriver et finalement tu déchantes ou tu t'inquiètes pas plus que ça?
Honnêtement, depuis l'arrivée du fonds d'investissement, on a un petit peu plus d'espérance que tout ce qu'on a pu vivre depuis les dernières années. Ça a été très très bien résumé, c'est très complet le résumé qui a été fait par Johan. Les années Preziosi, c'était vraiment là les dernières années complètement catastrophiques à tous les niveaux structurels et sportifs. Là maintenant, alors Shevchenko, c'est une première pierre à l'édifice, enfin on espère. Le problème, c'est l'effectif, quoi. Pour les gens qui ont vu le match... contre la Juvière, mais c'est inadmissible ce qu'on voit sur le terrain. Le niveau des joueurs est catastrophique, cataclysmique. Maintenant, Shevchenko, je pense qu'il est arrivé avec quelques garanties de la part du fonds d'investissement. Je pense qu'il va avoir voire de gros efforts sur le mercato pour virer déjà, réussir à vendre tous les joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer en Serie A, hein, qu'on soit clair, hein, sur l'équipe d'hier, je pense qu'il se compte sur les doigts de la main les joueurs qui ont le niveau pour jouer. Hein.
Ah, on a perdu Marco. Petit souci de connexion, on va le récupérer dans quelques instants. Tiens, on en profite. Évoquons la Samp et son projet et l'info tombée ce lundi.
Lo stanno trattando come Totò Riina. Così la legale Pinatenga commenta l'arresto del patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, condotto a San Vittore per un'accusa di bancarotta relativa a 4 società nel settore turistico, cinematografico e alberghiero. Il club calcistico presieduto da Ferrero non sarebbe invece coinvolto nell'inchiesta aperta dalla Procura di Cosenza.
Voilà, côté Samp, c'est le gros boxon. Alors la Samp qui va pas beaucoup mieux sportivement que son voisin du Genoa, 15e de Serie A, mais surtout, on vient de l'entendre, son proprio, Massimo Ferrero, menotté, arrêté, traité comme Totò Riina, disent ses avocats,
oui,
qui a annoncé sa démission après avoir été arrêté pour des affaires de corruption, alors qu'ils sont pas liés directement au club, Johan. Cela dit, quelle histoire quand même.
Ouais, arrêtons-nous un instant sur ce qu'a dit l'avocat de Massimo Ferrero, traité comme Totò Riina, bon.
Qui est l'un des plus gros mafieux de l'histoire, on le rappelle. Hein, mais...
Voilà, de Cosa Nostra, il faut vraiment, vraiment... Mais ça, c'est l'excentricité dans l'univers du football italien. Il faudrait vraiment peser ses mots parce que c'est inacceptable de sortir des choses comme ça. Mais bref, effectivement, c'est de toute façon un propriétaire avec une personnalité ultra excentrique qui, effectivement, a reçu la petite visite de la brigade financière pour des soupçons de banqueroute frauduleuse qui lui étaient déjà arrivés un peu plus tôt. C'est quelqu'un qui a eu pas mal d'affaires et de démêlés ces dernières années, qui a eu plusieurs business, notamment dans le cinéma. Il a démissionné de son poste de président de la Samp. Il en reste le propriétaire, évidemment, mais il se retire de toute fonction, on va dire, stratégique pour le moment. Même si, tu l'as précisé, Nico, il faut le répéter, ce n'est pas lié à la Sampdoria, ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais c'est... Dans une saison qui va être sans doute un peu compliquée aussi, parce que ça parle déjà et ça pourrait arriver incessamment sous peu en cas de mauvais résultats dans le derby, d'un changement d'entraîneur. Là encore, ça va être une instabilité chronique du côté de la Sampdoria. Voir son patron empêtré dans des affaires comme ça, c'est jamais bon signe dans le déroulé d'une saison, clairement.
Alors Ferrero, hein, qui est le boss, le président de l'Assemblée depuis 2014. Jonathan, est-ce que tu es soulagé à l'idée que Ferrero puisse passer la main? Alors Johan vient de le dire, hein, c'est un personnage très excentrique, c'est vrai?
Très clairement, tous les supporters de l'Assemblée sont d'accord. On veut son départ et on veut la vente du club. On espère tous un fonds d'investissement qui est porté par Luca Viali, l'ancienne idole et l'entraîneur adjoint de la Squadra Azzurra. Maintenant, pour sa chute en prison, j'ai vraiment l'impression que c'était inévitable. Ça fait plusieurs fois que des affaires qu'il est pris dans des affaires. Maintenant, on lui dit « Salut l'artiste, c'était bien, c'était cool, tu t'es amusé. » Il a fait des belles choses, mais très clairement, il est dépassé. Et je ne suis pas sûr qu'il ait toute sa tête depuis 4 ans. Ça ne va plus. Donc oui, on espère maintenant vraiment le rachat du club. Pas pour forcément devenir un grand club, un top club, ça ne nous intéresse pas forcément, mais pour être un club sain. Pour revenir sur D'Aversa, il aurait dû être viré après le match de la Lazio. Et je pense que la chute de Ferrero a fait le maintien de D'Aversa à la tête de l'équipe. Il y avait une grosse rumeur Stankovic, relayée par Di Marzio, le journaliste italien. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour D'Aversa, j'ai l'impression que c'est reculer pour mieux sauter en permanence. Ça fait 3 ou 4 matchs où il est réellement sur la sellette. Le match contre la Lazio en première mi-temps, on prend l'eau, c'est une catastrophe. Et je tiens à dire quand même que contrairement au Genoa, et là c'est pas du tout une attaque, et c'est pas du chauvinisme de ma part, mais on a une équipe, on a des joueurs, des Torsby, des Candreva, des Gabbiadini, des Quagliarella, des Caputo, Damsgaard. Bon là il est blessé, mais... On a y a du matériel. On pourrait largement prétendre à être à la place, par exemple, de l'Hellas. Et le problème, c'est qu'on récupère un entraîneur qui vient de couler Parme en série B. Je ne sais pas si c'est des bonnes dynamiques. Surtout qu'on avait Ranieri, qui était d'une élégance sur et en dehors du terrain. Et c'est encore une fois tout ça et les conséquences de la gestion de Ferrero à la tête de la Samp. Donc,
Nico,
bon vent à lui.
Juste si tu me...
Vas-y, Juan, pour finir.
Nico, si juste tu me permets... En fait, Preziosi a longtemps été contesté, mais c'était vraiment féroce. Hein. Les ultras, notamment, mais les supporters de manière générale au Genoa passaient leur temps à mettre des banderoles contre Preziosi, l'insulter sur des champs, etc. Il faut savoir que Massimo Ferrero, lors l'un des derniers matchs à domicile, pas le dernier contre la Lazio, mais avant contre l'Hellas Vérone, il y avait une banderole aussi qui réclamait son départ et le retour justement de Viali avec son fonds d'investissement. Donc c'est aussi très chaud et on a vu comment ça avait pourri l'ambiance au niveau du Genoa, cette lutte des supporters vis-à-vis de leur président. Attention que ça ne fasse pas la même chose du côté de la Samp.
À suivre donc, en tout cas, il s'annonce très chaud, hein, le derby de vendredi entre le Genoa et la Samp. Tout à l'heure, tu as été coupé, Marco. Franchement, là, vous n'avez pas intérêt à le perdre, hein, le derby, parce que vu la situation sportive du Genoa, et puis vu le fait que c'est le derby à venir, là, un peu tendu quand même. Tu es un peu inquiet quand même pour la saison du Genoa ?
Un peu inquiet, oui, c'est le mercato d'hiver, hein, clairement, avec le fonds d'investissement qui va déterminer la suite de la saison. Faut être clair, on va faire, je pense, 10 départs pour 10 arrivées, mais essayer d'avoir une équipe compétitive pour se maintenir dans un premier temps. Là, le match de vendredi, oui, il est ultra important. Pour Shevchenko, c'est son premier derby. Et pour l'équipe, vu le nombre de points qu'on a depuis le début de saison, on est à la 18e place et l'écart commence à se creuser avec les non-relégables. C'est vraiment le match le plus important là, depuis le début de saison, surtout vu les purges que les joueurs nous ont sorties là, depuis quelques temps.
Et l'écart pourrait se creuser un peu plus, Nico, parce qu'après le derby, il reste deux matchs avant la trêve. Les deux matchs, c'est déplacement sur la pelouse de la Lazio et réception de l'Atalanta. Ouais. Autant dire que...
C'est pas simple, ouais.
Ça va pas être simple.
Ce podcast touche à sa fin. Merci Marco, le boss du compte Twitter @GenoaFrance. Merci beaucoup Marco.
Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout le travail que vous faites et pour la mise en lumière de nos clubs dont on parle pas suffisamment à notre goût. Hein. Un petit peu de chauvinisme. Non mais merci à vous pour l'invitation, c'était super, merci beaucoup.
C'est gentil à toi. Merci Jonathan du compte @Sampdoria_FR. Merci Jonathan.
Merci à vous et n'hésitez pas à nous suivre. Et si vous voulez regarder, je ne parle pas d'un très grand match de football. Je ne parle pas non plus d'énormes animations dans les gradins parce que je sais que les Illustratitos de la Sampdoria ne vont pas être là. Mais si vous voulez regarder ce qu'est un derby, n'hésitez pas. Ouais. Soit regarder celui-là, soit aller voir 2-3 vidéos. Il y a de très très beaux tifos.
Et merci.
Vendredi soir, 20h45.
Merci beaucoup, Johan Notre-Dame, drôle de dame italienne, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, dans la rue, bien évidemment. Merci beaucoup Jérôme Thomas à la production, merci Suzanne Folie à la réalisation, merci Arthur Robert à la coordination, merci à vous tous, ce podcast n'a que quelques mois, quelques semaines même et vous êtes déjà nombreux à nous suivre, on se quitte en musique, il s'appelle Adra SP et forcément il est génois, ciao ragazzi.
Aio, cresciuto per le strade, frate di SP, fratelli che vestono jeans in tasca troppi G. Non è importante che tu sia mulatto, bianco, nero, giallo. L'importante è che il cervello e che il rispetto riesci a darlo. Fumo e droga ci sono in tutti i quartieri, ehi. È da sapere queste cose son banali. Si sbirri asciugano i pivelli con un dieca poco seri, sperando di trovare fonti principali. Ho amici di tutte le razze, tu non dire una parola. Ho imparato più lingue per la strada che a scuola. Amici italiani, frate albanesi, marocchini, ecuadoriani, senegalesi, tunisini, africani. Il Maruego mi saluta e salam aleikum. Il cico che ti insulta chupa l'uebo maricon. Cagliate la trompa sì, cagliate la trompa no. Saluti, chip sharab, bon pif, bokurot, cari muti. I tuoi fissati con la DPG e 777. I miei fissati con il 999.
RMC After Europe, le podcast
Nicolas Villas.